Chapitre 35. Confusion générale. 300 vaisseaux spatiaux battant en retraite dans l'espace d'Hyperion sous un feu nourri. Cédant le terrain à l'essaim comme des hommes aux prises avec des abeilles. Panique aux abords des terminaux d'Istrance militaire, postes de contrôle saturés, vaisseaux repoussés comme des VEM dans la grille aérienne de TC carré, vulnérables comme autant de perdrix devant les chasseurs extro à l'affût. Panique au point de sortie. Vaisseaux de la force alignés comme des moutons dans un enclos étroit et attendant leur tour de passer du terminal intermédiaire de Madieu à celui donnant sur l'extérieur. Vaisseaux débouchant dans l'espace d'Hébron, certains immédiatement déroutés sur Heaven's Gate, le bosquet de Dieu, Mare Infinitus ou Asquith. Plus que quelques heures maintenant avant que les essaims ne pénètrent dans les systèmes du Retz. Confusion totale parmi les centaines de millions de réfugiés dits transportés loin des mondes menacés, qui se retrouvent dans des cités et des centres d'hébergement dont les responsables sont à moitié déboussolés par la perspective d'une guerre imminente. Confusion aussi dans les mondes non menacés du Retz, où éclatent des émeutes. 3 ruchers de l'Usus représentant près de 70 millions de citoyens coupés du reste de la planète en raison des troubles provoqués par les fanatiques du culte Grichtech. Galeries marchandes de plus de 30 étages saccagées et pillées, monolithes résidentiels envahis par la foule en fureur, explosions dans des centrales de fusion, attaques de terminaux d'Istrance par des éléments à contrôler. Le Conseil intérieur fait appel à l'hégémonie, qui décrète la loi martiale et envoie la force avec ses marines pour isoler les ruchers. Émeutes sécessionnistes sur la Nouvelle Terre et sur Alliance Maui. Attaque terroriste des royalistes de Glennon Heights, qui n'avait pas fait parler d'eux depuis 3/4 siècle, contre Talia, Armagast, Nordholm et Lee 3. Nouvelle manifestation violente des adorateurs du Grich sur Tsingtao Sichuangpana et sur le vecteur Renaissance. Le commandement d'Olympe de la Force prélève des bataillons de combat sur les transports en provenance d'Hyperion pour les transférer dans les mondes du Retz. Les brigades de destruction affectées aux vaisseaux torches dans les systèmes menacés signale la mise en place de sphères de singularité d'Istrance piégées, qui n'attendent pour exploser que le signal mégatrans de TC carré.
Il existe un meilleur moyen, affirme le conseiller Albedo devant Gladstone et son conseil de guerre. La présidente se tourne vers l'ambassadeur du technocentre. Il existe une arme capable d'éliminer les extros sans nuire au matériel de l'hégémonie ni à ceux des extros au demeurant.
Le général Morpurgo lui jette un regard noir.
« Vous voulez parler de l'équivalent du bâton de la mort sous forme de bombe ? Ça ne peut pas marcher. Les experts de la force ont démontré que les effets se propageraient indéfiniment. Non seulement de telles méthodes seraient déshonorantes vis-à-vis du code de l'honneur du nouveau Bushido, mais les populations locales risqueraient d'être tout aussi touchées que les envahisseurs.
« Pas nécessairement, » riposte Albedo. Si les citoyens de l'hégémonie disposent d'abris adéquats, il n'y a aucune raison pour qu'ils en souffrent. Comme vous le savez, les bâtons de la mort peuvent être calibrés pour agir uniquement sur certaines longueurs d'onde cérébrales. On pourrait concevoir une bombe selon les mêmes principes. Ni le bétail, ni les animaux, ni même les autres espèces anthropoïdes ne seraient affectées.
Le général Van Zeit, des marines de la force, se lève.
Il n'existe aucun moyen d'abriter des populations entières. Nos essais ont démontré que les neutrinos lourds d'une telle bombe de la mort pénétreraient une paroi rocheuse ou métallique de 6 km d'épaisseur. Personne ne dispose d'abri semblable.
La projection du conseiller Albedo croise les mains sur la table.
Nous disposons de 9 planètes munies d'abris capables de contenir des milliards de personnes, dit-il d'une voix tranquille.
Gladstone hoche la tête.
« Les planètes labyrinthiennes, » murmure-t-elle. Mais un tel transfert de population ne serait-il pas quasi impossible à mettre en œuvre ?
Pas du tout. Maintenant que vous avez relié Hyperion aux autres protectorats, chacun de ces 9 mondes possède ses propres facilités d'Istrance. Le centre peut se charger d'organiser le transfert de toutes les populations concernées.
Un murmure court autour de la longue table. Mais le regard intense de Mayna Gladstone ne quitte pas une seconde le visage d'Albedo. D'un geste impérieux,
Elle demande le silence qui s'établit aussitôt.
« Donnez-nous des détails, » dit-elle.
« Nous sommes intéressés. » Le consul, adossé au tronc d'un évier dans l'ombre moirée du feuillage bas, n'attend plus que la mort. Ses mains sont ligotées derrière lui avec une tresse de fibroplaste. Ses vêtements en haillons sont encore partiellement humides. Son visage est baigné de transpiration. Les deux hommes ont fini de fouiller ses affaires.
« Bordel !» fait le premier. « Y a rien dans tout ça qui vaut un pet de lapin à part ce putain de flingue de ma grand-mère !»
Il glisse à sa ceinture le revolver du père de Lamia.
« Dommage qu'on n'ait pas pu récupérer ce putain de tapis volant !»
grommelle le deuxième.
« Il avait plutôt du mal à tenir en l'air sur la fin !»
s'esclaffe le premier homme, bientôt imité par le deuxième. Le consul examine les deux personnages à travers ses paupières bouffies. Leurs armures massives se découpent en contre-jour dans le soleil couchant. D'après leur accent, il suppose que ce sont des locaux. Mais leur aspect général, avec leurs morceaux d'armure ancienne de la force, leurs lourds fusils d'assaut polyvalents et leurs vêtements rapiécés en polymère de camouflage, donne à penser qu'il s'agit de déserteurs d'une quelconque force territoriale paramilitaire d'Hyperion. D'après leur comportement à son égard, il est à peu près certain qu'ils ont l'intention de le tuer. Au début, étourdi par sa chute dans le fleuve Ouli, gêné par les cordes qu'il attachait au tapis Hawking et à son sac, il croyait qu'il venait lui porter secours. Le choc avec la surface avait été rude. Il était resté sous l'eau beaucoup plus longtemps qu'il ne l'aurait cru possible sans se noyer. Et il n'avait refait surface que pour se sentir emporté par un très fort courant, toujours empêtré dans les cordes. Il s'était battu vaillamment, mais il n'avait aucune chance. C'était à ce moment-là que les deux hommes étaient sortis de l'ombre de la forêt de névilles et d'épineux pour lui lancer une corde. Il l'avait roué de coups, puis attaché à un tronc. Après avoir vidé par terre toutes les affaires contenues dans son sac, il s'apprêtait de toute évidence à lui trancher la gorge et à abandonner son cadavre au charognard. Le plus grand des deux, dont les cheveux ressemblent à une masse de ficelles huileuses, s'accroupit devant lui et sort d'un fourreau un poignard zéro lame en céramique.
« Tes dernières volontés, papa ?»
Le consul passe le bout de sa langue entre ses lèvres. Il a vu 1000 films ou holos dans lesquels, à ce stade, le héros fait un croc en jambe à son premier adversaire, neutralise le second d'un coup de pied bien placé, s'empare d'une arme et expédie les deux mécréants dans l'autre monde, les mains toujours attachées, avant de se lancer dans la suite passionnante de ses aventures. Mais le consul ne se sent pas l'étoffe d'un héros. Il est vieux et épuisé, meurtri par sa chute dans le fleuve. Ses deux adversaires sont tous les deux plus forts, plus rapides et plus agressifs, visiblement, qu'il n'est capable de l'être. Il a assisté à maintes reprises à des scènes de violence. Il a même commis une fois un acte de violence. Mais ses inclinations et sa formation l'ont plutôt orienté dans la vie vers les voies plus pacifiques de la diplomatie. Il s'humecte de nouveau les lèvres pour murmurer « Je peux vous payer une rançon. » L'homme accroupi sourit en faisant aller et venir le zéro lame devant les yeux du consul à 5 centimètres de distance.
« Avec quoi, papa ? Ta carte universelle ? Ça vaut pas un clou de cercueil par ici !»«
De l'or, » fait le consul, qui sait que ce mot magique est le seul à avoir conservé son pouvoir à travers les âges. L'homme accroupi n'a aucune réaction. Une lueur morbide brille dans ses yeux fixés sur le zéro lame. Mais le deuxième s'avance et pose une main massive sur son épaule.
« Qu'est-ce que tu racontes, toi ? »
demande-t-il au consul.
« Tu as de l'or ? Où ça ? » ?»«
À bord de mon bateau, le Bénarès. »
L'homme accroupi lève le zéro lame à hauteur de sa propre joue et le balance d'avant en arrière.
Il raconte des histoires, Cheese. Le Bénarès, c'est cette barge à fond plat tirée par des mantas qui appartenaient au pot bleu qu'on a liquidé il y a 3 jours.
Le consul ferme les yeux une seconde. Il sent la nausée qui monte en lui, mais lutte pour la repousser. Abétic et les autres androïdes de l'équipage avaient quitté le Bénarès un peu moins d'une semaine plus tôt, dans l'une de ses embarcations de sauvetage, pour redescendre le fleuve vers la liberté. Apparemment, ils avaient trouvé autre chose à la place.
« Ah, Bétic, le capitaine, » murmure-t-il.
« Il ne vous a pas parlé de l'or ?»
Celui qui tient le poignard ricane.
Il a fait de drôles de bruits, mais il n'a pas parlé beaucoup. Il a juste dit qu'il voulait arriver à la bordure avec ce vieux Rafio. Sans les mantas, ça faisait une sacrée putain de distance.
« Tu causes trop, Obem, »
lui dit l'autre en s'accroupissant à son tour devant le consul.
« Et pourquoi que tu aurais caché de l'or sur ce Rafio, papa ?»«
Vous ne me reconnaissez donc pas ?» demande le consul en relevant la tête. « J'ai été consul de l'hégémonie pendant des années. »«
Hey, oh, ne nous raconte pas de salade !»
commence l'homme au poignard.
« C'est vrai !»
interrompt l'autre.
« Je me souviens de ta gueule quand j'étais gamin dans les holos.
Mais pourquoi que tu voulais planquer ton or dans ce coin paumé alors que le ciel est en train de nous tomber sur la tête, consul ?»«
Nous voulions le mettre à l'abri, dans la forteresse de Chronos, »
explique le consul en s'efforçant de parler sans paraître trop excité. Chaque seconde de sursis le remplit d'allégresse, mais il se demande bien pourquoi.
« Tu étais fatigué de vivre. Tu voulais mourir. »
Mais pas comme ça. Pas au moment où Rachel, Sol et les autres ont besoin de son aide.
Plusieurs des citoyens les plus riches d'Hyperion étaient dans la combine, reprend-il. Les autorités nous ont refusé le droit de transférer le magot. Nous avons donc décidé de le mettre à l'abri dans les coffres de la forteresse de Chronos, qui se trouve au nord de la chaîne bridée. C'est moi qui étais chargé de le convoyer, en échange d'un pourcentage, bien sûr.
Il est complètement sonné! S'exclame l'homme au poignard. « Toute cette zone appartient au Gritch !»
Le consul baisse la tête. Il n'a pas grand mal à simuler la fatigue et le sentiment d'échec de tous ses projets.
« Nous n'avons pas tardé à nous en apercevoir, en effet. L'équipage d'androïdes a déserté la semaine dernière. Plusieurs des passagers ont été tués par le Gritch. Moi-même, j'ai pu redescendre le fleuve tout seul. »«
Il raconte des conneries !»
fait l'homme au poignard avec la même lueur morbide dans le regard.
« Tais-toi !»
lui dit son compagnon. Il assène une gifle violente au consul.
« Où est-il en ce moment, ton soi-disant bateau chargé d'or ?»
Le consul sent le goût du sang sur sa lèvre.
« En amont, mais pas sur le fleuve. Il est caché dans l'un des affluents.
« Je vois !»
fait l'homme au poignard. Il place le zérolame à plat contre la nuque du consul. Il n'a pas besoin d'accomplir un grand mouvement pour lui ouvrir la gorge. Il lui suffit de faire pivoter le poignard d'un quart de tour.
« Je dis que c'est des conneries !»
reprend-il.
« Est-ce qu'on est en train de perdre notre temps ?»«
Attends un peu !»
lui dit l'autre.
« À quelle distance en amont ?»
Le consul se remémore les affluents qu'il a croisés durant les heures précédentes. La nuit est en train de tomber. Le soleil va plonger derrière la ligne d'arbres qui marque l'horizon ouest.
« Un peu plus haut que les écluses de Carla, » murmure-t-il.
« Pourquoi que tu descendais le fleuve avec ton joujou au lieu d'être là-bas ? »
« J'allais chercher de l'aide. »
L'effet de l'adrénaline a cessé de se faire sentir. Il se trouve maintenant dans un état d'épuisement proche du désespoir.
Il y avait trop de bandits le long de la rive. C'était trop risqué de continuer avec la barge. Le tapis Hawking me semblait plus sûr.
Celui qui s'appelle Cheese éclate de rire.
Range ta lame, Obem. Heureusement qu'on passait justement par là, hein.
Obem bondit sur ses pieds. Le zérolame est toujours dans sa main, mais il est maintenant pointé vers son partenaire.
T'es complètement pété ou quoi? T'as de la merde entre les oreilles? Tu vois pas qu'il raconte n'importe quoi pour pas faire le grand voyage en tapis volant?
Cheese ne sourcille pas. Il ne fait pas un seul pas en arrière.
D'accord, il raconte peut-être des histoires. Mais qu'est-ce que ça peut foutre, hein? Les écluses, elles sont à moins d'une demi-journée de marche, et de toute façon, on comptait pas rester ici, hein? Maintenant, s'il n'y a pas de bateau et pas d'or, tu le saignes lentement, pendu par les chevilles, d'accord? Et si l'or est là, tu feras quand même le boulot, mais on sera riche, c'est vu.
Obem oscille quelques secondes entre rage et raison. Puis il pivote d'un quart de tour sur les talons et lacère violemment de son zérolame le tronc d'un éville sur 8 centimètres de profondeur. Il a le temps de se retourner et de s'accroupir de nouveau devant le consul, avant que la gravité informe l'arbre qu'il a été sectionné et le fasse basculer en arrière au bord du fleuve dans un grand bruit de branches froissées. Puis Obem agrippe le consul par le devant encore mouillé de sa chemise.
« Va bien voir s'il y a quelque chose de vrai dans tout ça, consul. Mais dis un mot, essaie de courir, fais un seul faux pas,
et je te coupe un doigt ou une oreille rien que pour m'entraîner, tu saisis ?»
Le consul, délivré, se remet avec peine sur ses pieds. Les trois hommes s'enfoncent sous le couvert des buissons et des branches basses, le consul à 3 mètres derrière Cheese et à la même distance devant Aubem, refaisant péniblement le chemin qu'il a parcouru en tapis au King, s'éloignant de la capitale et du vaisseau qui seul lui aurait peut-être permis de sauver Sol et Rachel. 1 heure passe. Le consul essaie désespérément de trouver une manière habile de s'en tirer lorsqu'ils atteindront l'affluent et que la barge ne sera pas au rendez-vous. Plusieurs fois, Cheese leur fait signe de s'arrêter et de se cacher lorsqu'il entend un bruit. Le froissement d'ailes des somptueuses diaphanes dans les arbres ou quelque chose qui trouble le silence du fleuve, par exemple. Mais il n'y a aucun signe de présence humaine. Aucune aide extérieure à espérer. Le consul se souvient des bâtiments calcinés qui bordaient le fleuve, des huttes abandonnées et des quais déserts. La peur du Gritch, la peur de tomber entre les mains des extros après l'évacuation, des mois de pillage par des éléments incontrôlés des forces territoriales, tout cela a transformé la région en un no man's land absolu. Le consul imagine plusieurs prétextes pour gagner du temps, mais il les abandonne l'un après l'autre. Son seul espoir est qu'ils s'approcheront suffisamment des écluses pour qu'il tente un plongeon dans les eaux bouillonnantes, malgré ses mains liées dans le dos, et se laisse emporter par le courant jusqu'aux petites îles où il pourra essayer de se cacher. L'ennui, c'est qu'il se sent trop fatigué pour nager, même avec les mains libres. Et il offrira une cible trop facile aux deux hommes, même s'il prend 10 minutes d'avance parmi les troncs charriés par le courant ou les rochers qui parsèment le fleuve. Il est trop las pour jouer au plus malin, trop vieux pour être courageux. Il pense à sa femme et à son fils, morts depuis tant d'années dans les bombardements de Brescia, assassinés par des hommes aussi dépourvus d'honneur que ces deux créatures. La seule chose qu'il regrette, c'est d'avoir renié sa parole pour venir en aide aux autres pèlerins. Cela, et aussi le fait qu'il ne connaîtra jamais leur sort final. Derrière lui, Aubem crache avec mépris.
« Y en a marre, Cheese. Tu crois pas qu'on ferait mieux de le pendre par les pieds et de le saigner tout doucement jusqu'à ce qu'il devienne plus causant? Pas la peine de s'encombrer de lui pour aller jusqu'à cette foutue barge si elle est là où il dit. »
Cheese se retourne, essuie la sueur de son front, regarde le consul d'un air spéculateur et grogne.
« Tu as peut-être raison. Mais ne l'abîme pas trop qu'il puisse parler jusqu'à la fin, hein. T'inquiète pas, »
fait Aubem avec un rictus en sortant son zéro lame.
« Ne bougez plus !»
tonne une voix venue d'en haut. Le consul se laisse tomber à genoux. Les bandits des ex-forces territoriales braquent leurs armes avec la dextérité que confère une longue habitude. Il y a un grand froissement de branches, un vrombissement et beaucoup de poussière soulevée autour d'eux. Le consul lève la tête juste à temps pour voir le ciel nuageux se troubler comme si une masse invisible était présente au-dessus d'eux, en train de descendre lentement. Cheese lève son fusil à fléchette, tandis qu'Aubem pointe son lance-grenade. Mais ils tombent tous les trois en avant, non pas comme des soldats fauchés par le tir ennemi, ni comme les victimes d'un effet de souffle provoqué par quelque force balistique inconnue, mais comme l'arbre abattu par Aubem un peu plus tôt. Le consul se retrouve le nez dans la poussière et les petits cailloux, sans ciller, incapable de bouger même les paupières. Un neuro-étourdisseur, se dit-il malgré l'état de ses synapses devenues aussi inertes qu'un bloc de graisse usagé. Un mini-cyclone se forme tandis que quelque chose de gros et d'invisible descend se poser à proximité des trois corps, en soulevant la poussière de la rive du fleuve. Le consul entend une porte qui s'ouvre et perçoit le cliquetis des turbines des répulseurs qui descendent au-dessous du seuil de sustentation. Il ne peut toujours pas bouger les paupières, et encore moins relever la tête. Sa vision est limitée à quelques cailloux, un monticule de sable, une petite forêt de brins d'herbe et une fourmi architecte qui semble énorme à cette distance et qui paraît manifester un subit intérêt pour l'œil humide, quoique non balayé par la paupière, du consul. La fourmi modifie sa route pour traverser les quelques 50 centimètres qui la séparent de sa proie luisante. Le consul prie pour que les pas qu'il entend derrière lui se rapprochent vite. Très vite. Des mains le soulèvent aux aisselles. Une voix grogne, familière, mais tendue.
« Bon sang,
Il a pris du poids.
Les talons du consul raclent la poussière, heurtent au passage les doigts déjà agités de spasmes de cheese, à moins qu'il ne s'agisse de ceux d'Obem. Le consul, lui, ne peut même pas bouger les yeux pour regarder leur visage. Il ne peut pas non plus apercevoir ses sauveteurs jusqu'à ce qu'ils soient hissés, avec force jurons tout près de son oreille, jusqu'à l'entrée ovale du glisseur décamouflé, puis déposé sur l'un des sièges inclinés d'où se dégage une moelleuse odeur de cuir. Le gouverneur général Théo Lane apparaît dans le champ de vision du consul. Ses traits sont ceux d'un jeune garçon, déformé de manière légèrement démoniaque, tandis que la porte se referme et que les lumières rougeâtres de l'intérieur lui éclairent le visage. Il se penche pour attacher le harnais du consul.
« Navré d'avoir dû vous paralyser en même temps que les deux autres, » dit-il.
Il prend place dans son fauteuil, attache son propre harnais et empoigne le manche universel. Le consul sent le glisseur frémir sous lui, puis se soulever. Il reste stationnaire quelques secondes avant de s'incliner sur la gauche comme une assiette montée sur des roulements sans friction.
« Je n'avais pas le choix, »
explique Théo, dont la voix couvre à peine les bruits de l'habitacle.
« Les seules armes que ces engins ont le droit d'embarquer sont des étourdisseurs anti-émeutes. Le plus simple était d'arroser tout le monde d'une dose minimale, puis de vous tirer de là en vitesse. »
Il remonte ses lunettes archaïques sur son nez d'un geste que le consul connaît bien, puis sourit de toutes ses dents en murmurant
« Comme disaient les anciens mercenaires, on tire dans le tas, Dieu se débrouillera pour y retrouver les siens. »
Le consul réussit à bouger suffisamment la langue pour émettre un bruit et baver légèrement sur sa joue et sur le siège en cuir.
« Détendez-vous, »
lui dit Théo en reportant son attention sur ses instruments de pilotage et sur la vue à l'extérieur.
« Dans 2 ou 3 minutes, vous pourrez parler normalement. Nous sommes pour l'instant à basse altitude. » Dans 10 minutes, nous aurons regagné Kitz. Vous avez de la veine, monsieur,
ajoute-t-il en se retournant pour regarder le consul.
Vous deviez être un peu déshydraté. Les deux autres ont pissé sur eux dès que l'étourdisseur les a touchés. C'est une arme très humaine, mais un peu embarrassante quand on n'a pas de pantalon de rechange.
Le consul voudrait donner son opinion sur cette arme humaine, mais pas un seul mot articulé ne sort de sa gorge insensible.
Patience, encore 2 minutes. Lui dit Théo en se penchant pour lui essuyer la joue avec un mouchoir. « Mais je vous avertis, ce n'est pas très agréable quand les effets de l'étourdisseur se dissipent. »
À cet instant précis, quelqu'un enfonce plusieurs milliers d'épingles et d'aiguilles dans le corps du consul.
« Comment avez-vous fait pour me repérer ?»
interroge le diplomate. Il se trouve à quelques kilomètres de la capitale, toujours au-dessus du fleuve Ouli. Il peut maintenant s'asseoir et ses mots sont plus ou moins intelligibles, mais il est heureux de n'être pas obligé de se lever et de marcher tout de suite.
« Pardon ?» lui demande Théo.
« Comment avez-vous fait pour retrouver ma trace ? Comment saviez-vous que je revenais par le fleuve ?»«
La présidente m'a mis au courant par Mégatrans. Message ultra secret à détruire aussitôt lu. »«
Gladstone ?»
s'étonne le consul qui remue désespérément les doigts pour essayer de leur redonner un peu de vie.
« Comment Gladstone pouvait-elle savoir que j'avais des ennuis ? J'ai laissé le persoc de ma grand-mère Siri dans la vallée pour pouvoir contacter les autres pèlerins dès que j'aurai récupéré mon vaisseau. Qui a pu l'avertir ?
Je l'ignore, monsieur. Mais elle nous a indiqué l'endroit avec précision. » Elle nous a dit que vous aviez des problèmes avec votre tapis Hawking et que vous veniez de vous écraser dans le fleuve.
Le consul secoue la tête d'un air incrédule.
Cette femme possède des capacités de ressources étonnantes, Théo.
Oui, monsieur.
Le consul jette un coup d'œil à son ami. Théo Lane est gouverneur général d'Hyperion depuis plus d'une année locale, mais les vieilles habitudes ont la peau dure. Et le « monsieur » est dû aux 7 années durant lesquelles Théo a servi comme adjoint sous ses ordres. La dernière fois qu'il a rencontré le jeune homme, plutôt jeune à présent, se dit-il en observant les rides de responsabilité qui lui creusent le front, Théo était furieux qu'il n'accepte pas de prendre le poste de gouverneur général à sa place. C'était un peu plus d'une semaine auparavant. Une véritable éternité.
« Au fait !»
articule le consul en prenant bien soin de détacher ses mots.
« Je crois que je vous dois des remerciements, Théo. »
Le gouverneur général hoche la tête, apparemment perdu dans ses pensées.
Il ne demande pas au consul ce qu'il a vu dans les montagnes du Nord, ni quel a été le sort des autres pèlerins. Au-dessous d'eux, le fleuve Ouli suit son cours méandreux vers la capitale. Un peu plus loin, il est encaissé entre des parois de granit qui brillent doucement sous les feux du couchant, tandis que les buissons bleus ondoient sous la brise.
« Comment avez-vous trouvé le temps de participer en personne à ma recherche, Théo ?»
demande le consul.
« La situation sur Hyperion doit tenir de la pure folie. »
« C'est exact, » fait Théo en commandant à l'autopilote de prendre la suite des opérations et en se tournant pour regarder le consul dans les yeux. « Il ne me reste plus que quelques heures, peut-être quelques minutes, avant l'invasion des extros.
« Invasion ?»
répète le consul en battant des paupières.
« Vous voulez dire qu'ils vont descendre occuper cette planète ?»«
Oui. »«
Mais la flotte de l'hégémonie ?»«
Elle est dans un état de confusion totale. C'est à peine si elle s'est défendue avant que le Retz soit envahi. »«
Le Retz ?»
Des systèmes entiers sont tombés dans les mains des extros. D'autres sont menacés dans les heures qui viennent. La force a ordonné le repli général à travers les terminaux militaires d'Istrans, mais de toute évidence, les vaisseaux prisonniers des systèmes ont eu du mal à se désengager. Personne ne songe à me fournir des détails. Il est clair cependant que les extros ont les mains libres partout, à l'exception d'un périmètre défensif que la force a mis en place autour des sphères de singularité et des terminaux.
Et le port spatial ?
Demande le consul qui songe à son magnifique vaisseau peut-être réduit à l'état de carcasse fumante. Il n'a pas encore été attaqué. La force est cependant en train de retirer ses vaisseaux de descente et d'approvisionnement aussi rapidement que possible. Elle a laissé derrière elle un détachement de marines, plutôt symbolique à vrai dire.
Où en est l'évacuation ?
Théo se met à rire. C'est le rire le plus amer que le consul ait jamais entendu chez son ex-adjoint. L'évacuation consistera sans doute à entasser le plus possible de personnalités et de diplomates dans le dernier vaisseau de descente qui quittera la planète.
Ils ont renoncé à essayer de sauver la population d'Hyperion ?
Ils sont incapables de sauver leurs propres ressortissants. D'après des rumeurs qui filtrent par Megatrans parmi les ambassadeurs, Gladstone aurait décidé d'abandonner tous les mondes menacés du Retz pour permettre à la force de se regrouper et de constituer de nouvelles défenses en 2 ans tandis que le déficit de temps des essaims continue de s'accroître.
« Mon Dieu !» murmure le consul.
Il a passé presque toute sa vie à représenter l'hégémonie et à comploter pour causer sa chute afin de venger sa grand-mère et rétablir le mode de vie de son époque. Mais l'idée que tout cela est en train de se réaliser aujourd'hui...
« Et le Gritch ?»
demande-t-il soudain. Il aperçoit les bâtiments gris et bas de la capitale à 2 ou 3 kilomètres de là. Le soleil baigne encore les collines et une partie du fleuve, comme s'il voulait leur donner sa bénédiction avant la nuit. « On en parle encore de temps en temps, » répond Théo en secouant la tête. Mais les extros lui ont pris la vedette pour ce qui est des bruits de panique.
« Il n'est tout de même pas allé dans le Retz. Je veux parler du Gritch. »
Le gouverneur général se tourne vivement vers le consul.
« Dans le Retz ? Comment pourrait-il se trouver dans le Retz ? Aucun terminal d'Istrans n'a été autorisé sur Hyperion. La présence du Gritch n'a d'ailleurs jamais été signalée à proximité de Kitz, d'Endymion ou de Port-Romance. Dans aucun centre important, en fait. »
Le consul ne dit rien, mais il pense. « Mon Dieu, ma trahison n'aura servi à rien. J'ai vendu mon âme pour ouvrir les tombeaux du temps, mais ce ne sera pas le Gritch qui causera la chute du Retz. Ce seront les extros. Ils nous manipulaient depuis le début. Ma trahison faisait partie de leur plan.
Écoutez-moi bien,
lui dit Théo d'une voix rauque en lui saisissant brusquement le poignet.
La raison pour laquelle Gladstone m'a ordonné de tout laisser tomber pour aller vous récupérer est qu'elle a levé la quarantaine qui pesait sur votre vaisseau.
Splendide,
fait le consul.
Je vais pouvoir. Écoutez-moi, vous dis-je. Vous n'allez pas retourner dans la vallée des tombeaux du temps. Elle veut que vous évitiez les périmètres occupés par la force et que vous parcouriez le système jusqu'à ce que vous tombiez sur des éléments de l'essaim.
L'essaim ? Pourquoi ferais-je une...
La présidente vous demande de négocier avec eux. Ils vous connaissent. Elle a pu les prévenir d'une manière ou d'une autre de votre arrivée. Elle pense qu'ils vous laisseront approcher, sans détruire votre vaisseau. Mais elle n'a pas encore reçu confirmation de leur acceptation. La mission est risquée.
Le consul se redresse dans son fauteuil en cuir. Il a l'impression d'avoir reçu une nouvelle charge d'étourdisseur.
Négocier ? Qu'est-ce qu'il y a à négocier encore ?
Elle dit qu'elle vous contactera par l'intermédiaire de votre Mégatrans lorsque vous aurez quitté Hyperion. Il n'y a plus de temps à perdre. Vous devez partir aujourd'hui même, avant que les mondes de la première vague ne tombent entre les mains des extros.
Le consul ne comprend pas ce que Théo entend par « monde de la première vague ». Mais il n'ose pas demander si sa planète bien-aimée, Alliance Maui, fait partie de la liste. Peut-être, songe-t-il, serait-ce mieux ainsi.
« C'est impossible, »
murmure-t-il.
« Je dois retourner dans la vallée. »«
Elle ne vous y autorisera pas, »
fait Théo en remontant ses lunettes.
« Et comment m'en empêcherait-elle ? »
demande le consul en souriant. « En abattant mon vaisseau ?»«
Je l'ignore, mais c'est ce qu'elle a dit. »
« N'oubliez pas, » ajoute-t-il en fronçant les sourcils d'un air sincèrement inquiet, « que la Force a toujours des vaisseaux torches et des chasseurs en orbite pour escorter les derniers vaisseaux de descente. »
« Très bien, » fait le consul sans cesser de sourire. « Qu'ils essaient de m'abattre. Il y a au moins 2 siècles de toute manière qu'aucun vaisseau habité n'a pu se poser dans la vallée des tombeaux du temps. Ou plutôt, ils se posent intacts, mais leur équipage disparaît aussitôt. Avant qu'ils aient ma peau, je serai épinglé aux branches de l'arbre du Gritch. »
Il ferme les yeux un instant et imagine son vaisseau en train de se poser, vide, dans la plaine au nord de la vallée. Il imagine Sol, Durée et les autres, miraculeusement revenus, courant s'abriter à bord, sauvant Het Mastin et Brown Lamia grâce aux installations chirurgicales et mettant la petite Rachel dans une chambre cryotechnique.
« Mon Dieu !»
murmure Théo, dont la voix atterrée sort le consul de sa rêverie éveillée. Ils sont maintenant au-dessus de la capitale. Le fleuve est un peu plus encaissé entre les falaises qui culminent au sud avec le massif sculpté à l'effigie du roi Billy le Triste. Le soleil est en train de disparaître à l'horizon. Les nuages bas et les constructions au sommet des falaises, à l'est, se parent de reflets roses. Au-dessus de la ville, la bataille fait rage. Des lasers transpercent les nuages. Des vaisseaux virevoltent comme des insectes et se brûlent comme des papillons de nuit trop près d'une flamme. Pendant ce temps, des ailes portantes et des champs de suspension troublent le plafond des nuages. La capitale est attaquée. Les extros descendent sur Hyperion.
« Bordel de merde !»
s'exclame Théo. Le long de la crête arborée qui marque la limite nord-ouest de la cité, une brève flamme en forme de fuseau et le miroitement d'une traînée marquent la trajectoire d'une roquette lancée du sol qui vient droit sur le glisseur de l'hégémonie.
« Agrippez-vous !»
lance le gouverneur général. Il passe en commande manuelle, tourne quelques boutons, puis bascule l'appareil vers tribord, de manière à se placer à l'intérieur du rayon de braquage du petit missile. Une explosion à l'arrière projette le consul contre son harnais et lui brouille la vision durant quelques instants. Lorsqu'il y voit de nouveau, l'habitacle est en fumée et des voyants rouges clignotent partout dans la pénombre, tandis que la voix du glisseur avertit ses occupants d'une dizaine de défaillances majeures.
« Tenez-vous bien !»
fait Théo inutilement. Le glisseur vire brusquement sur l'aile en un mouvement à décrocher l'estomac, trouve une nouvelle assise, puis la perd aussitôt pour tomber en vibrant et en tournoyant vers la cité en flammes.